Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle et de la surveillance policière. Comment concilier liberté et sécurité? Pas de doute, l'intelligence artificielle est en marche, généralisée dans les villes des pays industrialisés. Mais concrètement, comment fonctionnent ces technologies? Que permettent-elles? Des caméras à la reconnaissance faciale, de la vidéosurveillance algorithmique, des drones et surtout un traitement massif, automatiser des données sur les individus, sur leurs actions. La surveillance des citoyens s'accentue pour un projet de Safe City, la ville sûre, qui remplacerait désormais la Smart City, la ville intelligente. Contrôler le civisme et le respect des lois par les citoyens jusqu'à la prévention d'attentats, quelle est au juste l'efficacité de l'IA? Sommes-nous réellement davantage en sécurité sous haute surveillance? Et au-delà, l'IA est-elle soluble dans la vie démocratique? Nous allons en discuter avec notre invité. Bonjour Félix Tréguer.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au Centre Internet et Sécurité du CNRS et vous êtes membre de la Quadrature du Net, une association de défense, de promotion des droits et libertés sur Internet. Et vous publiez un ouvrage passionnant qui s'appelle Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle aux éditions Divergence. Vous êtes actuellement à Aix-en-Provence en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, que nous remercions. Nous ferons également le point sur l'IA dans les pratiques des policiers américains avec notre correspondant à Atlanta, Edouard Maille. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, un nouvel épisode de notre série « Le succès des repates » par Charlie Dupio à Douala, portrait aujourd'hui de la franco-camerounaise Diane Audrey Ngako. Elle a 33 ans et aujourd'hui elle est à la tête de 3 agences de communication au Cameroun. Mais tout de suite, l'IA, la surveillance, la sécurité. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout si vous vous demandez ce qu'il y a derrière les caméras que vous voyez dans les centres commerciaux où vous faites vos achats ou dans les capitales du continent africain où elles se déploient progressivement. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 et vous postez vos messages.
On ne peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque citoyen. Alors que paradoxalement, la demande de sécurité augmente. Donc le moyen d'augmenter la sécurité, c'est de donner plus d'outils juridiques, des droits aux policiers, le contrôle d'identité, des lois qui les protègent, mais aussi des outils techniques.
Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Papier d'identité s'il vous plaît.
Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est
parfait, je suis d'accord.
Beaucoup de technologues veulent résoudre les problèmes humains par la technologie.
J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures.
Vous n'avez jamais eu de faux indices?
La reconnaissance faciale vous a mal identifié.
Encore, non mais sérieux là? Non mais où on va comme ça? Elle est où la limite?
Vous placez les limites, on va en discuter avec vous, Félix Tréguer. Vous publiez La surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle. On l'entend, la surveillance généralisée a beaucoup inspiré à la fois la création artistique, mais fait l'objet de nombreuses enquêtes, de débats. Ça résonne évidemment avec des systèmes totalitaires, notamment avec le crédit social en Chine ou la surveillance des Ouïghours. Je voudrais vous lire le message d'un de nos auditeurs qui s'interroge. Ibrahim, il est à Cotonou, au Bénin. Et il nous dit, Félix Tréguer, en Europe, la vidéosurveillance est une bonne chose. Mais ici, en Afrique, c'est pour réprimer impunément nos populations. Chez vous, en Occident, la liberté d'expression, la défense des consommateurs, le droit à son intimité sont encadrés. Mais chez nous, ça reste un mirage. Néanmoins, je pense que c'est nécessaire à Cotonou, en zone urbaine, où la pose de ces caméras de surveillance devrait réduire considérablement les accidents de circulation, souvent perpétrés par des véhicules automobiles de transport en commun, ceux qu'on appelle les tokpa-tokpa, qui freinent, qui se garent tout d'un coup en pleine circulation lorsqu'ils aperçoivent un piéton client sur la chaussée ou sur le trottoir, sans aucun respect des règles de conduite. Voilà. Ça, c'est le message d'Ibrahim. Juste pour rappel, la vidéosurveillance, qui est désignée d'ailleurs dans la presse au Bénin comme vidéoprotection, a été entérinée en Conseil des ministres en 2022 et donc se déploie à Cotonou pour verbaliser les automobilistes, tout comme à Abidjan. Par exemple, où est-ce qu'on en est de cette tendance mondiale de la surveillance via l'intelligence artificielle? Félix Tréguer.
Écoutez, ce sont des marchés en plein essor, puisque, par exemple, si on prend le marché de la reconnaissance faciale, il augmente de 16% par an au niveau international. Il devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2028. Pour les autres applications de la vidéosurveillance algorithmique, donc le couplage de l'IA avec la vidéosurveillance pour détecter des événements ou comportements suspects, c'est pareil, c'est une croissance exponentielle. Donc c'est des secteurs en plein essor que se disputent d'un côté les entreprises chinoises comme Huawei ou Hikvision, des groupes israéliens aussi qui sont très en pointe sur le sujet, des entreprises états-uniennes issues des multinationales de la tech le plus souvent, et également des groupes européens comme Thales, IDEMIA, notamment pour ce qui concerne les entreprises françaises. Et donc ces technologies de surveillance liées à l'intelligence artificielle, elles se déploient partout sur la planète en effet, à très grande vitesse, avec trop peu de débats démocratiques. Et j'aurais envie de souligner, en réponse à la remarque et au témoignage de votre auditeur, qu'en France, il est vrai qu'on a aujourd'hui pas loin de 100 000 caméras de vidéosurveillance placées sur la voie publique, tout ça à grand renfort d'argent public, et en réalité, le rapport coût-efficacité est très faible. Hein. Si on en croit à la Cour des comptes qui le rappelait dans un rapport de 2020, il n'a jamais vraiment officiellement été évalué, et les quelques études indépendantes parlent de 1,1% à 3% des affaires pénales où les images de vidéosurveillance jouent un rôle pour la résolution des affaires. Là, je parle de la vidéosurveillance classique, non couplée à l'IA. Mais tout ça pour dire que ça ne marche pas vraiment en pratique et que ça peut aussi, à l'occasion, armer une répression politique contre certaines formes de militantisme qu'on voit aussi poindre en France, en Europe, même si les droits fondamentaux sont un peu mieux protégés qu'ailleurs, sans doute.
Voilà, alors vous avez bien posé le sujet, Félix Tréguer. Dites-nous quelles sont les principales technologies de surveillance policière que vous avez étudiées, enfin de surveillance tout court d'ailleurs, hein, parce qu'elles peuvent être utilisées non pas par des policiers d'un État, mais par des entreprises privées, je pense notamment des centres commerciaux par exemple. Quelles sont ces technologies que vous avez étudiées? Comment sont-elles utilisées concrètement? Que permettent-elles? Est-ce qu'on commence par la reconnaissance faciale?
Alors si on s'intéresse effectivement, et qu'on, c'est sans doute la technologie la plus centrale hein, quand on parle d'intelligence artificielle et de surveillance, c'est vraiment le couplage de la vidéosurveillance avec l'IA pour automatiser l'analyse de ces images et éviter d'embaucher trop de personnes pour visionner les flux de vidéosurveillance et donc tenter de générer automatiquement des alertes ou en tout cas accélérer le travail d'analyse de cette vidéosurveillance. Donc c'est ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, c'est le couplage de techniques d'IA basées sur l'apprentissage machine qui est vraiment...
C'est-à-dire qu'on a une caméra dans la rue, on a des piétons, des automobilistes qui circulent, hein, et la reconnaissance faciale donne quoi comme information?
Alors, la reconnaissance faciale, c'est l'une des nombreuses applications possibles. On peut détecter des visages, en effet. On peut détecter des vélos, compter des piétons qui passent à tel ou tel endroit. On peut détecter un départ de feu, un bagage abandonné, en tout cas, c'est autant d'applications que les industriels présentent. La reconnaissance faciale, elle peut permettre en temps réel, donc si par exemple un policier est placé dans ce qu'on appelle les centres de supervision urbain, ces grandes salles de contrôle où sont placés de gigantesques murs d'écran, d'identifier à la volée un individu. C'est-à-dire qu'on va coupler le flux entrant de vidéos avec des fichiers de police qui détiennent des photographies de visage, de face, comme c'est le cas désormais de nombreux fichiers de police et de fichiers d'état civil, pour tenter de trouver des correspondances et donc d'identifier des individus, par exemple des individus recherchés. Type d'application.
Mais c'est ça. Dire que quand vous parlez de 100 000 caméras qui sont placées en France, dans des lieux, sur la voie publique, dans des lieux publics, évidemment, il n'est pas possible de visionner en temps réel ces images. C'est la méta-analyse, c'est l'analyse massive de données qui donne l'alerte sur un comportement qui sort de l'algorithme ordinaire, c'est ça, si je puis dire?
Ces technologies peuvent en effet déclencher des alertes en cas de détection de comportements suspects. En tout cas, c'est ce que prétendent les industriels. Et je dois souligner à ce stade de la discussion qu'en France, il y a un cadre. Les Jeux Olympiques de 2024 et qui accourent jusqu'en mars de l'année prochaine. Mais ces technologies, même si elles sont déployées très largement, elles ne sont pas régulées par un cadre juridique qui les rend légales. Donc c'est encore, on parle en tout cas dans le contexte français de pratiques qui sont encore embryonnaires. La reconnaissance faciale, elle n'est pas possible aujourd'hui en France en temps réel. Il est possible pour la police, par exemple, dans le cadre d'une affaire, de prendre la photographie d'un suspect, la photographie d'un visage d'une personne suspectée d'une infraction, et de la soumettre à un algorithme de reconnaissance faciale pour sonder un fichier de police qui s'appelle le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires, et tenter de retrouver des photographies contenues dans le fichier qui correspondent à la photo du suspect qu'on présente à l'algorithme. Et c'est une manière donc d'identifier un individu, puisqu'on va avoir en lien avec sa photo, la photo stockée dans le fichier, des informations d'état civil, sa couleur de peau, son âge, etc.
Revenons sur le cas emblématique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y avait une grosse pression, beaucoup de risques à anticiper. Quelle a été l'ampleur de l'expérimentation d'un système de vidéosurveillance algorithmique avec l'installation de 185 caméras intelligentes qui étaient conçues pour détecter des risques en temps réel pendant les Jeux Olympiques ?
Oui, il y a eu des dizaines, effectivement, d'expérimentations depuis l'hiver dernier, donc bien avant les Jeux Olympiques eux-mêmes, et ça a continué par la suite, à chaque fois pour des grands événements, donc soit des compétitions sportives, soit des concerts et autres événements de ce type. Et à chaque fois, il s'agit de tester des cas d'usage relativement délimités, prévus par la loi, donc des individus ou des véhicules à contresens, des personnes au sol qui auraient chuté, la détection de colis abandonnés, etc., etc. Donc des cas d'usage relativement peu sensibles par rapport à l'éventail d'applications possibles de ces techniques de vidéosurveillance algorithmique. L'enjeu pour le ministère de l'Intérieur français qui promeuvait cette expérimentation, c'était de montrer que ça pouvait apporter une contribution utile au maintien de l'ordre dans le contexte de ces grands événements. Mais il y a un but moins directement avoué qui est de préparer la légalisation et la banalisation de ces technologies de vidéosurveillance algorithmique dans les pratiques policières. À ce stade, on a très peu d'informations sur ce qu'il s'est vraiment... sur le fait de savoir si ces technologies ont réellement fonctionné. On est en droit d'en douter. Il y a un comité d'évaluation qui a été mis en place et qui devrait rendre un rapport d'ici la fin de l'année pour préparer le débat parlementaire qui suivra donc cette expérimentation qui se termine en mars 2025. En l'état des choses, on a d'un côté le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui nous explique que tout a merveilleusement bien marché. Ce dont on est en droit de douter, puisqu'il s'agit encore de technologies en grande partie expérimentales. Et quelques personnes, notamment un député membre du comité d'évaluation, qui était assez choqué de la préemption du débat qu'induisait cette prise de parole du préfet de police et qui a souligné qu'au moins pour certains cas d'usage, ça n'avait pas du tout marché. Donc on attend de voir le rapport et d'en savoir un petit peu plus.
Sachant que le gouvernement Barnier...
Pour juger de l'efficacité de ces technologies.
Sachant que le gouvernement Barnier souhaitait pérenniser et généraliser son usage, reste à voir... Maintenant, il faudrait savoir ce qu'il en sera avec le nouveau gouvernement Bayrou, qui n'est pas encore nommé. Félix Tréguer, vous restez avec nous. On va voir comment, quelle est l'efficacité de ces technologies pour les missions qui lui sont assignées, c'est-à-dire prévenir notamment la violence dans les villes. Quelles questions ça pose aussi pour le fonctionnement des démocraties? Faut-il être surveillé pour vivre en sécurité? On verra bien sûr le cas des États-Unis. Et vous pouvez poster vos questions au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après cette sélection de la playlist RFI. Tiakola, en tête des écoutes des ventes multi-récompensées, extrait de son dernier album, No Limits.
Je viens faire le beau jeu comme brésilien, gloire masqué comme cartel mexicain. Que Dieu t'a fait rien de magique, j'ai pas coulé comme Martin devant l'américain. Le soir je m'endors des rêves plein la tête, puis tu peux, je me bats pour y accéder. Que d'amour dans mes shows pour me booster, fatigué, je continuerai même fatigué. Hey. Et tu sais ce qu'on aime pas, bandit dans street donc tu lis la notice. Un peu de joie quand tu vas sur la piste, qu'on a fait ce qu'on a fait grâce à la vie d'artiste. Mais dans le mal, voilà ce qui m'attriste. Je vois beaucoup mieux la Matrix. Mickey des mecs dans les vis, Mickey des mecs dans les vis. Chérie, laisse ça. J'ai plus tant de jouer à ça. Dans ma vie, des love, j'ai reçu, j'ai vite, c'était que de passage. Le
vois qu'un côté dans le ouais, site. Lumière éteinte, plus d'artiste,
c'est noir.
Ce tracas est prière pour me vider la tête. De l'ambiance en soirée dans nos week-ends. Que j'ai la bien caillé dans nos dégaines. Et cet âge, je veux de l'oxygène. Ils savent qu'on est bossant quand on dégaine. Sur le corner numéro 7, sur le maillot, t'es ma comment je les gêne. L'avenir ne peut être que pérenne quand on grandit avec tous les sébènes. Hey, hey. Allez, beaucoup du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Propos, j'en ai plus, faut fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du coup. Pour faire rentrer, faut rester debout. Comme toi, la vie d'un m'a mis des tout. Oulala, je veux les beaucoup du coup. Oulala, poussez-vous, je veux les beaucoup du coup. Hey, hey. J'empilias de billets tous les jours. J'essaie, c'est trop billets tous les jours. Quand j'en ai pas là, forcément les souris dansent. J'accumule les récompenses, j'suis en plan dans ma vocation. J'suis en plan dans ma vocation. Baby voudrait des vacations. Quelqu'un dans la langue. Un Marcel avec ses cations. Si tu connais le GOAT, tu sais qu'il est dans sa fast life. Trop stylé, aucun fashion. Faut pas, il me dit qu'autour de moi y'a trop de wife. Même mental que Franklin. Nos limites, nos limites, nos limites. Off soit taille, ego, j'élimine. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Même mental que Franklin. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Nos limites, nos limites, nos limites.
Off soit taille, c'est moi, j'ai dans nos week-ends. Que j'ai l'obé caillé dans nos dégaines. Elle s'attache, elle veut d'oxygène. Ils savent qu'on est brosson quand on dégaine. Sur le corner, je suis en Seven. Sur le maillot, t'es moi, comment je les gêne. L'avenir ne peut qu'être pérenne quand on grandit avec tous les sébènes. Oh, allez, beaucoup du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Repos, j'en ai plus, faut fermer les bouches. Lala, lala, beaucoup, beaucoup. Pour faire rentrer, faut rester debout. Quand on la vie, t'as m'a mis des coups. Allez, allez, beaucoup du coup. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Beaucoup du coup, allez, beaucoup du coup.
Vous écoutez 8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et en liaison avec notre invité Félix Tréguer qui publie La surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle aux éditions Divergence. On pose bien sûr la question, intelligence artificielle et surveillance policière, peut-on concilier liberté et sécurité? Vos questions au 33 7 64 45 51 41. Direction tout de suite les États-Unis où l'intelligence artificielle gagne du terrain chez les forces de l'ordre. Alors, certains départements de police testent des logiciels d'IA pour écrire les comptes rendus à partir des images, des caméras qui sont embarquées, qui sont disposées sur le corps des policiers. Ça, ça fait gagner du temps. Mais l'IA est surtout utilisée dans des centres de surveillance, une pratique populaire chez les forces de l'ordre, jugée plus efficace, mais qui suscite des craintes. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Atlanta, Édouard Maille. Bonjour Édouard.
Bonjour Emmanuel.
Alors comment fonctionnent ces systèmes de surveillance ?
Alors l'intelligence artificielle est utilisée pour rassembler et analyser en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le système le plus utilisé provient de l'entreprise Fusus qui appartient à Axon, entreprise connue pour fabriquer des tasers et des caméras portées par les policiers. Et désormais le système Fusus, un système de centre de crime et délinquance en temps réel. Concrètement, il faut imaginer plusieurs policiers assis dans un bureau, devant un mur rempli d'écrans. Les images proviennent des caméras dans les rues, sur les routes, sur les policiers. Et l'intelligence artificielle détecte tout comportement jugé suspect, et si un crime ou délit est identifié, l'image est envoyée aux policiers qui peuvent intervenir plus rapidement et identifier le potentiel auteur. Le système est aussi connecté aux données de la police, aux antécédents de certaines personnes et utilise la reconnaissance faciale. Mais ces technologies ont un prix. Selon des informations du média Daily Dot, ces systèmes coûtent au département de police entre 50 000 et 150 000 dollars par an, payés par la police envers l'entreprise. Ces systèmes restent encore très minoritaires. En 2023, selon l'agence de presse Reuters, ils étaient utilisés par 70 polices municipales ou de comté sur plus de 18 000 départements que compte le pays, mais de plus en plus de départements y ont recours.
Est-ce que ces systèmes ont permis de réduire la violence ?
Alors, il y a peu d'études sur leur efficacité, mais selon la police, oui, c'est efficace. Certains témoignages de policiers expliquent comment la technologie a facilité leur travail. Par exemple, ici à Atlanta, en mai 2023, un homme ouvre le feu dans un hôpital et tue une personne et en blesse quatre autres. L'homme prend la fuite et disparaît immédiatement. Il est ensuite reconnu sur une vidéo de surveillance à une station essence en train de voler un camion. Et la plaque d'immatriculation du camion est retrouvée à une vingtaine de kilomètres de là. Et pour la police, l'arrestation a été aussi rapide grâce à son système de surveillance. surveillance qui utilise l'intelligence artificielle. Et ce système est désormais plébiscité par les forces de l'ordre. 90% sont en faveur de son utilisation, selon un sondage réalisé par l'entreprise Marc 43. C'est une augmentation de 55% par rapport à l'année dernière. 65% des forces de l'ordre estiment que ça les aidera à être plus productifs et 89% que ça permettra de réduire la délinquance et la criminalité.
Comment les Américains perçoivent l'usage de l'intelligence artificielle ?
Alors, les avis sont partagés, mais presque la moitié sont en faveur. 46% estiment qu'un usage généralisé de l'IA pour la reconnaissance faciale est une bonne idée, tandis que 27% pensent le contraire, et 27% ne sont pas sûrs, selon une étude du Pew Research Center en 2022. Mais pour les critiques, la technologie est vue comme une atteinte à la vie privée. Il faut savoir que des particuliers ou des entreprises peuvent installer ces systèmes de surveillance connectés, systèmes ensuite reliés à la police, mais c'est bien sûr avec l'autorisation des personnes. Tout cela est vu comme un vecteur d'une police de plus en plus présente, avec l'éternel débat, faut-il plus de sécurité, quitte à empiéter sur la vie privée. Certains sont pour, tandis que d'autres voient cette surveillance comme une atteinte aux libertés fondamentales. Et cela suscite d'autres craintes liées à de possibles discriminations. Pour fonctionner, l'intelligence artificielle s'appuie sur des données, des fichiers d'archives de la police, pour déterminer ce qui pourrait se produire. Et dans les données de la police, les personnes noires sont surreprésentées, explique l'Association africaine-américaine pour les droits civiques, la NAAC, qui craint des discriminations racistes du système de surveillance pour détecter les crimes ou délits. De plus, l'organisation avance le manque de transparence dans la technologie, avec le risque d'une érosion de la confiance de la population dans la police.
Merci Edouard Maille, vous êtes le correspondant de RFI à Atlanta. Félix Tréguer, vous évoquez dans votre enquête Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, notamment le cas de la ville de Denver et la problématique des effectifs policiers.
Oui, la ville de Denver, c'est une ville démocrate que j'ai pu visiter en 2022 dans un contexte où ça faisait 2 ans après les émeutes qui ont suivi le meurtre de George Floyd et les grandes manifestations contre les violences policières qui s'en sont suivies. Une ville donc qui avait connu un recul des prérogatives policières, une remise en cause de certains budgets, et où la technologie était vue comme une manière de faire autant, voire plus, avec un peu moins de moyens, et en tout cas moins de moyens coercitifs. C'est une ville où il y a des enjeux budgétaires très importants, une réduction, une limitation des effectifs, et où on a pu effectivement envisager d'automatiser certaines interventions, notamment en envoyant des drones automatiquement en cas d'appel pour filmer la scène avant de décider de l'envoi d'effectifs humains.
Ça veut dire que dans ces cas précis, la technologie remplace des effectifs policiers manquants.
En partie, et en tout cas, il y a cette idée qu'on va pouvoir suppléer, en effet, mais comme dans plein d'autres secteurs professionnels impactés par des formes d'automatisation, remplacer le travail humain par un surcroît de technologie, d'intelligence artificielle, et comme ça des gains d'efficacité qui sont escomptés. Et on comprend complètement, je réagis au reportage de votre correspondant à Atlanta, on comprend complètement comment, du point de vue des policiers, il peut y avoir en effet un certain attrait de ces technologies pour faciliter, accélérer leur travail. J'observe cependant que, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain, qu'il y a aussi un rapport ambivalent des policiers vis-à-vis de ces technologies qui sont très souvent aussi, là encore comme dans d'autres secteurs professionnels impactés par le déploiement de l'IA, c'est des technologies qui sont utilisées pour les surveiller eux-mêmes en tant que travailleurs, produire des indicateurs, surveiller leurs déplacements très souvent. Et donc il y a un rapport aussi ambivalent que des policiers eux-mêmes vis-à-vis de ces technologies.
Alors, quelle est l'efficacité de ces technologies sur la violence ? Quand je dis violence, d'ailleurs, ça peut être aussi sur les infractions en général, parce que notre auditeur en début d'émission parlait des caméras de vidéosurveillance dans les rues de Cotonou qui pourraient réduire la délinquance routière, disons les infractions routières. On sait qu'il n'y a pas si longtemps, la ville de Manchester s'est dotée de caméras avec traitement massif des données, donc IA, pour détecter les automobilistes en infraction pour un usage de téléphone portable ou l'absence de ceinture de sécurité. Donc ça ne porte pas que sur la violence en tant que telle. Mais quelle est l'efficacité de ces technologies ? Vous signaliez en première partie d'émission le rapport de la Cour des comptes en France qui date de 2020, si je ne me trompe pas, sur l'efficacité de la vidéosurveillance pour juguler la criminalité. Les enquêtes estiment que les images de vidéosurveillance ne servent que dans 1 à 3% des affaires pénales. Mais ça ne prend pas encore en compte l'extraordinaire avancée de l'analyse algorithmique des flux vidéo. C'est-à-dire qu'on est sur une analyse beaucoup plus basique. Qu'est-ce qu'on a comme données à l'heure actuelle, finalement, sur l'efficacité de ces technologies ?
Ben, très peu en réalité. Hein. C'est encore des technologies qui sont très largement expérimentales. Et il a fallu des années pour avoir un petit peu de recul sur la vidéosurveillance classique et mettre en exergue une inefficacité dans la quasi-totalité des contextes dans lesquels elle est déployée. Il va falloir du temps pour appréhender la vidéosurveillance algorithmique dans ses différentes applications ou le recours à la reconnaissance faciale ou encore au logiciel de police prédictive. Si je prends ces derniers exemples, donc les logiciels de police prédictive qui peuvent, vous savez, calculer des scores de risque en croisant tout un tas de données, s'agissant soit de quartiers d'une ville, donc de zones géographiques, afin d'orienter les patrouilles dans ces zones si on estime que dans les 24 ou 48 prochaines heures, il y a un risque d'infraction plus important.
Qu'est-ce qu'on croise Revenons quand même, soyons concrets. Ouais. Qu'est-ce qu'on croise comme données pour dire ah ben dans ce quartier, ça va chauffer dans quelques jours?
Oui, alors c'est les statistiques de la criminalité des années passées qui sont donc géolocalisées et croisées avec d'autres données qui peuvent être des données météorologiques, des données liées à l'occupation de l'espace public si certains événements sont prévus à tel ou tel endroit. Mais c'est relativement basique et en fait ces algorithmes très souvent sont calqués sur des méthodologies ou disons des doctrines qui ont cours dans les forces de l'ordre au sein des forces de police. Par exemple, l'idée que la petite délinquance entraînerait la grande délinquance. Donc il y a à la fois comme ça l'IA qui génère ces corrélations statistiques pour établir des scores de risque pour les risques d'infraction dans telle ou telle zone et des algorithmes qui sont aussi croisés voilà, à des formes de doctrines qui sont codées dans ces mécanismes de recommandation à destination des forces de l'ordre. Et là où je voulais en venir, c'est que par exemple, il y a un logiciel de police prédictive qui s'appelle PredPol, qui a été déployé très largement aux États-Unis à partir des années 2015. Beaucoup de forces de police en sont revenues parce que, en fait, ça avait tendance à réinventer l'eau chaude. Et lorsqu'on envisage d'autres technologies qui ont pu être déployées depuis des décennies, hein, quand on pense à la voiture automobile, par exemple, à des systèmes basé sur l'informatique et de croisement de statistiques, avant même l'apparition de l'intelligence artificielle, à chaque fois, en fait, les résultats sont extrêmement peu convaincants. Ça a souvent tendance à focaliser l'attention sur certains indicateurs qui ne sont pas pertinents. Si on prend l'exemple de la voiture, c'est le temps de réponse entre un appel et l'intervention des forces de l'ordre.
A priori, on se dit que des policiers qui ont une voiture, ils vont être plus rapidement sur les lieux pour protéger des citoyens qui sont victimes de violences que des policiers qui sont à pied, par exemple.
Tout à fait. Et pourtant, dans les années 80, de nombreuses études qui vont se pencher sur le bilan de 20 à 30 années de déploiement massif des véhicules de police montrent que ça n'a pas d'impact sur l'évolution de la criminalité. Donc il y a comme ça un effet un peu... les technologies font écran quelque part et génèrent des formes d'irrationalité. Et si je reviens donc sur les quelque chose que l'on peut dire néanmoins sur le croisement de l'IA et notamment la vidéosurveillance algorithmique et de ses déploiements, de son déploiement à travers le monde aujourd'hui, ce qu'on voit très souvent, c'est à quel point les industriels, que ce soit l'entreprise chinoise Huawei ou un industriel français comme Thales, vont mettre en exergue des réductions très importantes de la criminalité suite à la mise en place de leur système. Je pense à Thales notamment qui faisait la publicité de son système de Safe City installé à Mexico City, ou Huawei qui a déployé ses caméras intelligentes à Nairobi. À chaque fois, en fait, ces chiffres qui sont donnés par les industriels sont contredits par les statistiques officielles et les études indépendantes qui peuvent être menées. Et donc, il y a un effet comme ça, en fait, un mensonge propagé par les industriels qui contribue à fausser le débat public, qui est très rarement en fait basé sur la réalité des choses et c'est sur des études indépendantes et vraiment fiables.
Alors, avant l'IA, on disait beaucoup que les caméras dans les villes permettaient un plus fort sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité, on sait très bien que c'est différent de la sécurité réelle. Généralement, les chiffres sont divergents. Donc, vous critiquez clairement dans votre enquête l'idée que la technologie seule peut résoudre les problèmes de sécurité. Est-ce qu'on peut regarder le cas de la Chine ? Parce que ça fait longtemps qu'en Chine, on a notamment sur le tri des ordures, des poubelles qui sont équipées de caméras, et c'est très dissuasif pour le citoyen, pour ne pas se tromper quand il fait le tri de ses ordures, parce que sinon, les caméras pourraient le dénoncer. Il y a la fameuse note sociale en Chine. Et puis, à l'extrême, la surveillance des Ouïghours, une minorité opprimée, privée de liberté, dont la surveillance est ultra sophistiquée par les autorités chinoises, dans un système totalitaire. Et ça a fait de la Chine vraiment le laboratoire technologique de la surveillance à grande échelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer de regarder la Chine comme un apéritif de ce qui nous attendrait ? Ou est-ce que nos garde-fous sont encore, en Europe, en Occident en général, ultra présents ?
Ce livre, il vient couronner 5 années d'enquête-action qu'on a menées avec la Quadrature du Net et tout un tas de collectifs à travers la France et ailleurs en Europe aussi contre le déploiement massif de ces technologies, ces nouvelles technologies policières. Et notre conviction, c'est que les garde-fous juridiques, justement, les autorités de protection des données, les lois en matière de protection de la vie privée, sont un rempart bien trop peu efficace face à la vitesse de ces déploiements et à ce qu'ils transforment dans les pratiques policières et ce qu'ils induisent en termes politiques. La Chine, elle continue d'apparaître en effet comme un pôle d'attractivité ou un exemple à suivre pour de nombreuses élites qui travaillent à la promotion de ces technologies. C'est très clair, c'est notamment très clair dans le contexte français, même si à l'occasion on entend qu'il faudrait surtout pas devenir la Chine, ce qu'il semble dominer néanmoins, c'est quand même une forme de fascination d'une partie de ces élites vis-à-vis du spectacle technosécuritaire qui est mis en scène par le pouvoir chinois. Et donc la conviction qu'on a portée et qu'on porte encore aujourd'hui en lien dans ces débats autour de ces nouvelles technologies policières, c'est qu'il faut repenser la sécurité, ne pas s'enfermer dans une approche étroitement techno-solutionniste, croire qu'on va résoudre des problèmes politiques extrêmement sensibles et importants à travers un surcroît de technologies et toujours plus de police, parce qu'au fond, ce que ça contribue à faire, c'est d'édifier de véritables états policiers, c'est-à-dire qu'en lien avec une augmentation toujours croissante des effectifs de police, des budgets accordés à ces mêmes polices, en lien aussi avec une automatisation toujours croissante qui certes peut induire de l'inefficacité mais permet aussi parfois d'accélérer très grandement le travail de la police. Ce qu'on est en train de faire, c'est de recréer des états policiers. Et manifestement,
mais à cela l'Europe répond par le règlement général sur la protection des données, la RGPD. On a l'IA Act aussi qui dit des choses sur la surveillance des individus.
Tout à fait, mais à mon sens, là encore, il y a un petit peu erreur sur la marchandise et en tout cas, une opération de communication qui est très loin de la réalité du texte, puisque le règlement IA que vous mentionnez, qui est entré en vigueur cet été au niveau de l'Union européenne, a été présenté comme une grande loi permettant notamment d'interdire la reconnaissance faciale en temps réel au niveau de l'Union européenne. Or, ce que le texte fait en réalité, c'est de poser un principe d'interdiction et de l'assortir immédiatement de très nombreuses exceptions, notamment dans le cadre d'enquêtes pénales. Et donc, en fait, il s'agit davantage d'un recul par rapport au texte de 2018 qu'avait adopté l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, d'autres textes en matière de protection des données personnelles, que nous, d'ailleurs, dans notre action à la Quadrature du Net au niveau français, on avait pu utiliser pour barrer la route au déploiement de certains systèmes de reconnaissance faciale. Et qui, aujourd'hui, donc, ces textes vont être court-circuités quelque part par le règlement IA, qui, sous couvert de poser un principe d'interdiction, ouvre en réalité grand les vannes au déploiement de cette technologie. Donc là encore, il y a un très grand écart entre les discours et la manière dont certains textes sont présentés ou légitimés et les effets très concrets qu'ils produisent sur ces marchés, sur les pratiques policières.
Vous êtes souvent invité dans des débats en tant que membre de la Quadrature du Net, un peu comme une caution critique. On attend que vous posiez des limites, on attend que vous donniez des pistes pour poser des cadres. En fait, vous, ce que vous répondez à chaque fois, c'est qu'il est impossible de poser un cadre et des limites. Vous dites juste qu'il ne faut pas d'IA pour la surveillance des individus. Alors, quelle dérive ça pose ou comment la technologie pourrait remplacer le jugement humain dans des décisions policières ? Quel est le risque, en fait, pour nos fonctionnements démocratiques, pour la vie quotidienne en démocratie ?
Alors, je donne des exemples dans le livre de la manière, des manières très nombreuses par lesquelles la technologie en fait contribue à amplifier la violence policière, à amplifier les formes de racisme ou de discrimination qui se nichent dans l'institution policière et qu'elle est censée faire valoir d'ailleurs en grande partie. Et ce qu'on a pu répondre, notamment à certains officiels du ministère de l'Intérieur qui voulaient en effet nous entendre donner un avis sur les limites acceptables à poser, par exemple, à une technologie comme la reconnaissance faciale, que pour beaucoup, ils perçoivent bien que cette technologie est dangereuse et emporte des risques très importants. Mais il y a cette croyance très forte dans l'idée que les garde-fous juridiques, notamment, vont pouvoir protéger les valeurs démocratiques. Or, on sait a fortiori, pour avoir connu des vagues d'attentats terroristes, l'instrumentalisation de faits divers pour faire progresser les lois pénales, augmenter la répression et accroître la réponse carcérale, on sait que les garde-fous en fait ne tiennent pas dans le temps et qu'ils sont très
moins puissants que la technologie.
Non seulement ne pas les appliquer.
C'est-à-dire que les garde-fous humains, les garde-fous politiques sont moins puissants que l'IA finalement.
Tout à fait. Et vraiment, on l'observe, on pourrait l'illustrer de très nombreuses manières, mais on l'observe très concrètement au jour le jour. Et ce qu'on peut répondre, du coup, pour revenir aussi à cet enjeu, puisque bien évidemment, on est dans des sociétés saturées de rapports de domination, de formes de violence, de déviance, et qu'il peut paraître normal de vouloir s'en protéger. Mais en fait, la réponse, elle ne peut pas tenir dans l'accroissement de l'arsenal policier répressif
grand
renfort de technologie.
Comment permettre aux citoyens, ça sera ma dernière question, hein, très rapidement, mais comment permettre aux habitants, aux citoyens de s'emparer du sujet, de mieux comprendre les aspects techniques pour avoir ensuite une opinion éclairée sur le sujet? Il nous reste quelques secondes.
S'informer d'abord et puis prendre part à ces débats, c'est ce qu'on essaye d'organiser à la Quadrature du Net en montant des campagnes, en proposant des outils d'information et de mobilisation pour politiser ces enjeux qui trop souvent échappent au débat démocratique. Et encore une fois, c'est important parce qu'en fait, une société qui veut rester démocratique doit se refuser à installer ces systèmes de surveillance massive de l'espace public. L'exemple que je donne souvent, c'est de dire que si en 1940, dans le contexte français, ces technologies de surveillance massive avaient été installées partout sur le territoire, il aurait été impossible d'organiser les formes de résistance pour tenir tête au fascisme et à l'autoritarisme.
Merci à vous, Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et Sécurité du CNRS et membre de la Quadrature du Net. Vous publiez Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, aux éditions Divergence. Dans quelques instants, un nouvel épisode de notre série Le succès des repates. Nous partirons à la rencontre de Diane Audrey Gouacou, qui a 33 ans, qui est rentrée au Cameroun il y a 8 ans pour fonder 3 agences de communication, alors que personne ne l'attendait. Mais tout de suite, c'est le rappeur de Kigali, Ish Kevin, chez 8 milliards de voisins. Intore yatojwe ntago ndi ikigwari niga kanze ndacyari kongwe hano ain't nobody bigger fam just use my name for cloud cause the public figure but ishiriri heavy media ntago yansubiza down attention seekers kuri twitter ntizanshirishati mpoza finger muri trigger niga ntimwanyinisha of course uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyinani flat kebwe online twahurukansa bipica and I'm still gangster you may fuck around and find out ask about my past nanze kontara yashayitwa nakuza na unami kandi hustle nkaba fight abari nyuma yo kuvuga kwanje sabajura ko that these niggas tryna stop me but ishari unstoppable whatever they gon' lock me up ni tokiri affordable ni cheap talk fana mwese kuba ntari flexible sick hoes ntacyo nteze kuba y'all be heading on young and successful boy like me rekorera igihugu mwe mukorera IG murashora muri views nge ndi kongera ma millions n'ikindi mwese nimuteze no gukomera like this yo ntari ku muziki muzahora na jean ruzinza baho life iri gucci mu kinyomba amafuti I have a lot to prove ibi mvuga birareba abagrupu izo comments ziri mu bujiji mutoragura mayu But trust me, banje ntaho bajya bari stuck hey, kutaba accessible kuri imwe byatugize abanzi nta na hip hop brand yigeze ibi naho irenze drop fishes You've been praying for my downfall Praying for my downfall You still praying for my downfall Praying for my downfall They've been praying for my downfall Praying for my downfall They still praying for my downfall Niggas praying for my downfall Nigga 17 days and not in fifty case Nijana muri court Urumva ari nk'ikigisha wazunkangisha ha bros Niyo naba niba ntago naba nkiri kuri phones I'm on a whole nother level Now you busy mu biro Byama 24 carats gold Kurushara na Euro Being the real G Ntiwapfa kungira Babylon Hamwe niyo mpamvu mba mbafungira Uwa marido wa chill Naba kapo nyabo sinasangira n'izo mbo Ndabizi you know me better Jesus muzazira ma ego Ko munsiga ubwo busembwa Niko mbafatira mbariko Ni mwakwigana ukuntu ngenda Ni mwamagira nka Malonda cyabako
mitekanye muzimba nigira vagabond kwanza most of your trollers ni mufite ubuzima mbarusha gushobora nanabarusha n'izina mbarusha amafaranga mwebwe nimwamfungira inzira ndabarusha na platform na undisha ndi ndiye game forever ni butabyemera go to hell fite price city set whenever you know you going to pay youtubers wabiri person iteka mvuga no to them okay then go to hell go to hell go to hell tukungira gukaba turi gukongeza umufana turi guhorera umurapa warwaniye hip hop kurusha mitrailleuse na 47 snap pistol kurugam hip hop game season hoya nibaraza kutubasha niggas you've been praying for my downfall praying for my downfall you still praying for my downfall praying for my downfall they've been praying for my downfall praying for my downfall they still pray for my downfall niggas praying for my downfall.
Et maintenant, chez 8 milliards de voisins, place à l'afro-optimisme avec un nouvel épisode de notre série disponible aussi en podcast et réalisée par Charlie Dupio, le succès des repates.
Le succès des repates.
On ne peut pas rester à distance et vouloir que les choses bougent sans que nous fassions quelque chose pour qu'elles bougent.
C'est très important de créer des emplois localement.
Ici, c'est compliqué. J'ai fermé mes oreilles tout simplement et je me suis lancé.
À 33 ans, Diane Audrengako est une repate. Elle est à la tête de 3 agences de communication au Cameroun. T-shirt blanc, boucle d'oreille, coquillage et sourire espiègle. La Mbengiste, c'est celle qui vient de France, hein, ne passe pas inaperçue. Elle est née au Cameroun. Elle a vécu en France de l'âge de 11 ans à 25 ans, avant de rentrer dans son pays d'origine, pour se lancer dans la communication auprès d'entreprises ou de responsables politiques. Aujourd'hui, son groupe emploie près de 30 collaborateurs et collaboratrices à temps plein, et une vingtaine de travailleurs de freelance, photographes, des vidéastes, des imprimeurs. Notre reporter Charlie Dupio a rencontré Diane Audrengako dans son agence Omencart à Douala. Elle fait le point avec son adjointe sur l'une des prochaines campagnes de publicité.
Avaler ça. Pour Imémé, est-ce que la recommandation, on pourra l'envoyer aujourd'hui?
On va l'envoyer aujourd'hui, de toutes les façons, on est obligé, on avance. Là, on essaie de trouver une mascotte, notre riz.
Pourquoi une mascotte?
C'est ça qui sera l'identité de notre nouveau riz, parce qu'ils n'ont pas d'identité.
Ah bon, mais le code couleur rose et vert.
Oui, mais au-delà de ça, on veut autre chose de plus impactant.
D'accord. Alors là, on a une marque de riz au Cameroun qui s'appelle Riz Mémé. Ils essaient d'étendre leur gamme en lançant un produit un peu plus accessible. Il faut savoir que un tiers des Camerounais aujourd'hui vivent avec moins de 1000 francs CFA. Ça veut dire avec moins d'1,50€ par jour. C'est incroyable, donc... T'es obligé à un moment, si tu veux être une marque impactante, ben, d'avoir un produit qui leur parle. Et donc nous, aujourd'hui, le travail de mon équipe, c'est de savoir comment une marque qui a toujours eu un positionnement premium haut de gamme va réussir à maintenir tous ses produits haut de gamme et à maintenir leur clientèle, tout en ouvrant, en s'ouvrant aussi au marché, on va dire, un peu plus populaire d'entrée de gamme, quoi. Et donc nous, on doit vraiment trouver le petit fil conducteur pour que ben, chaque sac de riz trouve son client, comme on dirait au Cameroun. Donc une fois que tu sors de mon bureau, tu as le cœur de la créa. Aïe, 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 aïe. Moi, j'aimerais comprendre. Hein. Vous avez mis la box MTN dehors, pourquoi? Elle doit prendre l'air. Non, les gars, vous abusez.
Et la pluie.
Je te jure.
Incroyable, incroyable.
Hey, comme tu peux voir, Internet, c'est un vrai problème ici au Cameroun. On a la fibre optique qui est ultra lente. On met des box partout. Tu vois que là, à la fenêtre, on a mis une box d'un opérateur jaune ici au Cameroun pour essayer de capter la connexion. On est un peu désespéré.
Vous la mettez dehors, genre au bord de la fenêtre?
Ils ont mis dehors au bord de la fenêtre. Mais si ça tombe, eux-mêmes, ils vont payer. C'est ça. Et donc là, à la créa, là, ils sont en train de parler de visuel.
Ça, c'est pour une affiche?
Oui, c'est pour une campagne des panneaux publicitaires. On a plusieurs axes, comme tu peux constater. Un avec la consommatrice, un où on voit que le packaging... Et un où on voit le packaging et le produit mis en scène.
Là, on voit du riz dans une assiette avec des légumes.
Là, on voit la maman qui tient le riz avec le sac. Ensuite, Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie.
Donc là, on entend que vous avez différents clients pour lesquels vous proposez une stratégie de communication.
Et oui, stratégie de communication et marketing.
Vous travaillez avec des entreprises de quel domaine, de quel secteur?
Ouh là là, plusieurs secteurs. Dans la cimenterie avec Simencam, dans la cosmétique avec la Nabio, dans le transfert d'argent, dans le bancaire. Lundi, tu as un peu l'impression que tu vends le riz, avec Rimémé, mardi, tu vends le ciment. Mercredi, tu vends le savon avec Jazz. C'est vraiment très, très cadencé.
En quoi ça a du sens pour vous de travailler dans ce domaine de la communication ?
Longtemps, la publicité en Afrique, c'était des... on prenait ce qui était fait en France. Au mieux, on changeait les personnages en noir pour créer une sauce africaine. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des codes, c'est raconter le Cameroun, raconter l'Afrique avec nos récits, avec nos histoires, avec nos imaginaires, pour que nos enfants, quand ils regardent, nos enfants comme les adultes regardent nos campagnes, ils se retrouvent, quoi. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Et puis, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que, ayant grandi notamment en France, quand j'ai choisi de m'installer au Cameroun il y a 8 ans, et d'ouvrir une agence de marketing et de communication, il fallait qu'au-delà de ma culture franco-française que j'ai eue pendant une quinzaine d'années, il fallait que je réapprenne aussi à comprendre l'environnement dans lequel je vivais pour proposer des campagnes marquantes. Et c'est pour ça que moi, au sein de mon agence, on développe beaucoup le travail sur l'étude, sur la compréhension du client final, du client intermédiaire. Et puis au Cameroun, on est beaucoup dans l'informel. Des fois, le gros de l'activité se fait des fois 85% dans les marchés. Moi, je suis rentrée au Cameroun parce que je pensais fondamentalement que je pouvais changer les choses. Je suis rentrée avec beaucoup, beaucoup d'optimisme. Et face à cet optimisme, je me suis pris beaucoup de murs. Et je crois que le gros mur, c'était 3 ans après mon retour. Donc, je suis rentrée en 2016. Et jusqu'en juin 2018, ça allait plutôt OK. Mais ça allait parce que quand tu arrives au Cameroun, tu as le côté un peu euphorique. Tu reviens chez toi. Donc, tu es patiente. Rien ne t'agace vraiment. Et bien, septembre 2018, ça ne va pas. Je me dis, mais merde, il faut que je rentre en France. Et je sais que ma mère, qui vit en France, elle n'attendait que ça. Elle attendait que le moment où j'allais lui dire « je rentre » pour dire « je t'avais dit ». Et parce que je ne voulais pas que ma mère me dise ça, je ne lui ai rien dit, mais je me souviens que ça avait été une période très, très dure où je me suis demandé « mais pourquoi ?» J'avais des clients, notamment un qui ne me payait pas, il mettait 8 mois pour me payer.
Vous aviez déjà lancé votre agence de communication ?
C'est ça. Ça faisait 1 an que j'avais lancé l'agence en février 2017, dont 1 an, et j'avais ce client qui avait du mal à me payer, mais ce client a fermé d'ailleurs entre-temps. Quand vous dites à un prestataire, je te paye lundi 1er, et que ton client ne te paye pas, tout le monde attend un argent qui arrive. Au Cameroun, c'est ça. Hein. J'attends un argent qui arrive. Et ça me faisait énormément de peine de devoir appeler des gens et de leur dire que je ne suis pas quelqu'un de confiance. Et après, surtout, je crois aussi que ça m'a demandé de me rappeler que j'étais peut-être pas si camerounaise que ça, dans ma culture. Mais j'avais pas compris que, on m'attendait pas. Le Cameroun ne m'a jamais demandé de revenir. Et dès lors que j'ai compris que ma culture était française, j'ai pu mieux prendre le positif de ce que le Cameroun avait à m'offrir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus patiente. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que quand je vais à Paris, comme il y a 2 semaines, j'ai hâte de rentrer chez moi. Et chez moi, c'est Douala, c'est le Cameroun. Même quand il n'y a pas d'eau et pas d'électricité et pas de route. Et j'ai aussi le sentiment de pouvoir inculquer demain à mes enfants. Parce que j'en ai pas pour l'instant, je suis célibataire. Donc s'il y a un auditeur qui m'entend et qui veut m'épouser, il faut qu'on fasse une grande et belle famille. Donc quand j'aurai des enfants, pour moi c'était important que mes enfants soient fiers d'être Camerounais. Ils ont la possibilité de voyager, de faire le tour du monde.
Diane Audrey Ngakho, un cœur à prendre. Le succès des repas, ce sont désormais 6 épisodes disponibles en podcast sur l'appli RFI Pure Radio et sur les plateformes de téléchargement avec des histoires très différentes à Kinshasa, à Libreville, à Douala, à Yaoundé. Et puis sinon, direction sur notre compte Instagram, vous retrouverez le lien. Merci à l'équipe Juliette Bro, Delphine Cachin, Romain Dubrac, Thibaut Mata, Didier Chérouse, Inès Yazidi. 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.